RCF.
Vendredi 18h10, on est très heureux de vous accompagner dans ce magazine régional le 18-19 en Champagne-Ardenne. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous êtes heureux aussi parce que les vacances commencent pour vous ce soir en Champagne-Ardenne. Pour d'autres, il faudra reprendre le chemin du travail, peut-être ce week-end, peut-être lundi. Mais quoi qu'il en soit, on sera là pour vous accompagner avec les équipes de RCF Cœur de Champagne, de RCF France-Ardenne. Que vous soyez à Épernay, à Châlons-en-Champagne, à Vitry-le-François, à Sainte-Menou, à Rethel, à Vouziers, à Givet, à Sedan, à Charleville-Mézières, ou que vous soyez sur le territoire, nous, on est là, près de vous, RCF Radio de proximité. Au programme ce soir, Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction. C'est la dernière, la der pour la page météo. Mélissa, bonsoir.
Bonsoir.
Pour vous, c'est les vacances après ce magazine régional?
J'ai encore samedi du boulot et après c'est les vacances.
Vous regardez la pendule plus que jamais. Au programme ce soir, la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen, Manouchian, un héros irrécupérable. Il s'en expliquera dans quelques instants. Évidemment, on parlera du carême en cette période avec Bénédicte d'Artigalong du diocèse de Châlons. Nous serons aussi avec Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui posera son regard sur l'actualité diocésaine, mais aussi sur l'Église dans le monde. Nous serons avec Mathieu Bernard pour présenter le musée Napoléon à Brienne-le-Château. Mathieu Bernard qui est l'adjoint au maire en charge de la culture. Et puis nous aurons un maire qui nous parle dans quelques minutes, François Garcien. Il est l'édile de Gendin dans les Ardennes, la commune de Gendin où il y a notamment une usine cristalline. Voilà pour le sommaire de cette émission. Oui, je fais du placement de produits. J'aurais pu citer Evian, j'aurais pu citer Épar, mais je sais pas pourquoi. J'avais envie de placer cette marque. Il y a Thierry qui me regarde bizarrement à la réalisation. Quoi qu'il en soit, nous, on va démarrer par le concret. Et comme tous les vendredis, c'est Jacques Cohen qui ouvre le magazine régional avec la chronique d'actualité. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Et Jacques, aujourd'hui, vous voulez nous parler d'une entrée au Panthéon, celle de Manouchian. C'était mercredi. Si l'on revient sur cette actualité, sur cette photographie, c'était quand même un moment d'histoire pour la France, ce qu'il s'est passé ce mercredi.
Ah, tout à fait. L'histoire est toujours écrite inlassablement selon les optiques idéologiques de la période. Alors il faut d'abord dire que Missak Manouchian est un indiscutable héros, quelqu'un de tout à fait digne d'être au Panthéon. Après, on peut regarder plusieurs aspects de son histoire telle qu'elle a été présentée avec les époques.
Et parmi le premier aspect que vous voulez regarder, vous voulez notamment regarder son engagement dans l'armée française.
Oui, c'est une chose récente. La photo n'était pas connue jusqu'il y a peu de temps. J'ai même découvert dans la période son entrée au Panthéon, Manouchian en uniforme de l'armée française. Il faut voir quand ça se passe, en fait. Ça se passe en 1940. Il a déjà plus de 30 ans. Il est en France depuis un moment. Il a voulu avoir la nationalité. Il ne l'a pas eu. Tant qu'il n'a pas la nationalité, il n'est pas appelé à l'armée. Et puis, il devient militant communiste, donc suspect. Et en 1939, il y a le pacte germano-soviétique. Les militants communistes sont surtout étrangers qui sont sur la liste B, c'est-à-dire reconnus comme des gens internés en cas de guerre, comme ennemis potentiels, sont arrêtés. Et c'est le cas de Manouchian, mais ils ont deux attitudes. Un certain nombre d'entre eux obéissent. C'est le cas de la famille de du jeune Guy Mocquet, qui finira par être fusillé, qui va rester en tôle. Et un certain nombre d'autres militants communistes n'acceptent pas le pacte germano-soviétique, dont Manouchian, semble-t-il, puisqu'il a le choix, tu sors, mais tu n'engages dans l'armée. Et il accepte de s'engager dans l'armée française pour combattre le nazisme. Le PCF va longtemps avoir une attitude d'opacité sur ce qu'il a eu comme attitude à ce moment-là du pacte germano-soviétique. Parce que le pacte germano-soviétique, ça a comporté une propagande contre la guerre, c'est-à-dire une propagande antimilitariste et même quelques sabotages d'avions de la part de militants communistes pendant la drôle de guerre. Ultérieurement, le PC va expliquer qu'il était résistant depuis la première heure et peut-être même 3 heures avant. Mais ce n'est pas du tout le cas. La ligne officielle du PC, c'est de lutter contre la guerre impérialiste, donc contre la guerre menée par les Français et les Anglais, en évitant d'expliquer contre qui, et ceci jusqu'à l'attaque de l'Union soviétique par les Allemands en juin 1941. Donc après, les choses vont s'arranger en tirage à l'épingle à cheveux, et tous ceux qui avaient suivi la ligne sont soulagés de retrouver l'ennemi naturel, c'est-à-dire le nazisme, et ceux qui avaient rompu avec le Parti communiste sont pour la plupart réintégrés, comme si j'ose dire, dans la lutte qui débute. Et c'est le cas de Manouchian, en fait, parce que il suffit d'opposer la situation, comme je viens de vous le dire, de Guy Mocquet et de sa famille, et celle de Manouchian pour comprendre que Manouchian, lui, avait choisi de continuer la lutte contre le fascisme hitlérien. C'est donc un point intéressant et un point important. Et ce qui est assez amusant, c'est que pendant un certain temps, l'attitude du PC était dénoncée par les autres partis en France. Et qui se souvenaient que, par exemple, Maurice Thorez avait déserté au lieu de rejoindre son régiment. Et que Staline avait dit à De Gaulle, lors de la rencontre à Moscou, « Vous ne le fusillerez pas trop vite quand même, vous savez, c'est quand même un bon Français. » En gros, disant « Je le tiens et le Parti communiste sera sage de ce fait. » Eh bien, toute cette réticence vis-à-vis du PC a disparu aujourd'hui. Quelques survivants ou mémoires des anciens du PCF et mémoires politiques françaises où finalement il y a une nostalgie du temps où le PC était une puissance alors qu'il est maintenant un petit vestige misérable. Eh bien, tout ce monde est d'accord pour reprendre la thèse que le PC était le fer de lance de la résistance en France alors que d'une part il s'est réveillé tard et d'autre part il n'était pas le seul. Donc ça c'est intéressant de voir cette résurrection de la théorie du masquage du pacte germano soviétique qui était allé jusqu'à ce que le PC essaye de faire reparaître l'humanité quand les Allemands sont rentrés dans Paris. Heureusement, ça a foiré, mais la démarche a été faite, elle est indiscutable. Alors, il y a beaucoup d'autres aspects dans l'affaire de Manouchian qui sont intéressants à reprendre. D'abord, pourquoi est-il mis en vitrine? Eh bien, il est mis en vitrine d'abord par les Allemands. Ça peut paraître surprenant, mais il est mis en vitrine pour justement montrer que c'est tous des étrangers ou des apatrides, enfin, c'est tous des communistes, et qui sont pour la plupart juifs, 80% sont juifs, et justement on met en vitrine celui qui ne l'est pas, parce que pour les Allemands il a un intérêt, c'est que l'Arménie c'est soviétique, et pour le PC, quand au contraire ils vont reprendre le développement de la mise en vitrine du groupe Manouchian, c'est beaucoup plus pratique également que de mettre Epstein, qui est le vrai chef, parce que le PC n'a pas tellement envie de mettre en scène une immense majorité de juifs. C'est donc déjà quelque chose d'assez étonnant, mais là c'est une convergence qui fait que Manouchian va être mis en vitrine. Il y a d'ailleurs un aspect qui est toujours resté ambigu dans la chute du groupe Manouchian, c'est que dans la lettre que celui-ci écrit à sa femme, il explique qu'il ne pardonne pas à celui qui nous a trahis et à ceux qui nous ont vendus. Et quand Aragon va se servir de cette lettre, cette dernière partie de phrase va disparaître. Il est vraisemblable qu'il indiquait le fait que le PC avait délibérément décidé de sacrifier le groupe Manouchian en continuant à l'utiliser dans Paris, alors que les renseignements acquis par la police française montraient qu'il allait commencer à le cerner complètement et qu'il allait inéluctablement être intercepté et liquidé si on ne mettait pas les gens au vert en les déplaçant de Paris. Du point de vue du PCF, pourquoi faire ça? Parce que nous sommes fin 43, la libération approche et d'avoir une force de frappe militaire qui soit exclusivement composée d'étrangers, alors que le PC et les FTP ont du mal à trouver des Français de souche pour faire le boulot, c'est le moment de s'en débarrasser parce que là ça commence à changer. Nous ne sommes pas encore à 5 dernières minutes, mais on commence à avoir pas mal de monde grâce au STO et on n'a plus tellement besoin d'eux, donc on peut éventuellement considérer que place nette ne sera pas mal pour montrer une francisation entre guillemets des FTP. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects peu connus dans l'affaire du groupe Manouchian. Mais encore un autre, c'est que l'écriture de l'histoire à l'époque de la saga de la résistance après-guerre ressemble beaucoup à la vie des saints ou à la légende dorée de Jacques de Voragine. C'est-à-dire qu'elle est directement décalquée de la théorie des martyrs. Il va être chargé abondamment un présumé traître qui aurait parlé, alors qu'en fait les renseignements acquis par les brigades spéciales de la police française avait parfaitement cerné quasi-totalité des gens du groupe et son organigramme surtout, bien avant que Davidkovits ne soit arrêté. C'est l'occasion de rappeler un autre point, c'est la grande puissance de la méthode de l'analyse des contacts par les filatures qui ont permis à la 2e brigade spéciale de la préfecture de police de reconstituer la totalité de l'organigramme. Et dans cet organigramme, on voit d'ailleurs très bien que Manouchian n'est pas le chef, mais qu'il est devenu agent de liaison mis un peu en retrait. Pour une bonne raison, c'est qu'il a effectivement jeté une grenade lui-même, mais il est retourné sur les lieux pour voir un peu les dégâts. Et ça, son chef, Holbein, considère que c'est inadmissible. Il le convoque, et au lieu de faire profil bas quand il se fait engueuler, Manouchian lui explique qu'il est assez grand, que les communistes sont capables de juger de ce qu'ils font, etc. Bref, un indiscipliné parfait. Et Holbein décide qu'il n'ira plus sur le terrain. On ne met pas quelqu'un d'aussi dangereux sur le terrain, parce que d'aller regarder, même si c'est parmi les badauds, ça peut être extrêmement dangereux. Si en face, il y a une attitude correcte consistant à repérer qui vient traîner, parce que justement, il y a inéluctablement des gens qui viennent faire l'évacuation des dégâts, c'est une des pistes pour le suivi et la répression. Donc, quelqu'un de courageux, quelqu'un d'indiscipliné, quelqu'un ayant son libre arbitre, si j'ose dire, et non pas quelqu'un obéissant, sur cette antenne, je peux le dire comme ça, périndé à cadavère, mais un homme à tous les sens du terme.
Merci Jacques Cohen de nous avoir éclairé sur la personnalité et le visage de Manouchian, entré au Panthéon donc mercredi. Et puis on aura plus d'informations évidemment en suivant votre blog jhmcohen.com. À très bientôt professeur.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On va au cœur du territoire, au cœur des terroirs dans ce magazine régional à 18h20. C'est la rencontre que l'on fait tous les soirs du lundi au vendredi. Aujourd'hui, direction les crêtes pré-ardennaises, direction Gendin avec son maire François Garcia qui nous parle au micro de Jean-Pierre Benoît.
François Garcia, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors on avait eu le plaisir de vous retrouver il y a quelques semaines parce que on aime bien les Ardennes et surtout cette région des crêtes pré-ardennaises du côté de Gendin. Est-ce que vous pouvez, monsieur le maire, nous présenter un petit peu votre commune, combien d'habitants, quelles sont les occupations de ces habitants, y a-t-il encore des agriculteurs, est-ce que des jeunes s'installent?
Je peux vous dire en synthèse, c'est que Gendin, c'est un pays qui vit, hein, c'est un pays qui se ressource. Hein, d'ailleurs, c'est presque un jeu de mots, puisque vous savez que on abrite aussi l'entreprise cristalline, donc au Gendin, qui fournit la source Aurel, la source cristalline que bon nombre de Français boivent tous les jours, consomment tous les jours. Donc ça, c'est une particularité de Gendin. On est sur un secteur des crêtes préardennaises où il y a beaucoup de réserves naturelles en eau, mais aussi en nature. Ce qui fait que c'est assez attractif. On a vu beaucoup de jeunes arriver après le Covid, hein, quand on a eu ce triste confinement, où les gens ont redécouvert un petit peu la nature et se sont dit, ben voilà, on va s'approprier la lumière et la nature et la joie de vivre à travers les paysages. Et donc, c'est vrai que nous, au niveau population, ben, on avait un peu plus de 300 habitants, c'est-à-dire on a gagné à peu près 10% de la population en quelques années. Ça se développe, hein, les gens viennent. Beaucoup de jeunes, alors des jeunes aussi du village, parce que les terres constructibles sont relativement abordables et on est situé à côté de la 34, donc sur une voie d'accès sur Reims, sur Épernay ou sur Charleville-Mézières, ce qui fait que c'est attractif à la fois dans la qualité de vie et puis aussi au niveau de l'emploi, on a facilité à rejoindre son travail. Voilà ce que je peux vous dire à ce niveau-là.
François Garcia, pour savoir se faire un ordre d'idée, combien de temps on met quand on est à Launois pour aller à Charleville, pour aller à Rethel, pour aller à Reims, pour aller à Charleville d'abord? C'est pas très long.
Bon, il y a à peu près, je vais dire, 20 minutes hein, de Gendin à Charleville. Pour aller à Reims, il faut compter à peu près 3 quarts d'heure, hein, 3 quarts d'heure d'autoroute. C'est très simple. Et puis on a aussi une desserte ferroviaire avec une halte ferroviaire qui est à Poitéron et qui relie Reims et Paris. Donc on a beaucoup aussi de gens qui font du covoiturage ou qui prennent les transports en commun depuis Poitéron. Et Poitéron, c'est à 5 minutes de Gendin. Quoi.
Oui, ça a été quand même... C'est utilisé quand même, cette halte de Poitéron, cette halte ferroviaire.
Ah, absolument, absolument. C'est utilisé déjà pour les jeunes qui viennent au centre de formation des apprentis de Poitéron. Hein, ça a été fait comme ça à l'origine. Et puis aussi pour tous ces jeunes qui montent à la fac, par exemple, de Reims, ou les gens qui vont travailler. Et à côté de la gare, vous avez un espace covoiturage qui, maintenant, est fortement utilisé.
Alors tout cela, ça donne beaucoup de perspectives, parce que depuis le Covid, c'est vrai, on a eu le sentiment, on en avait déjà parlé la dernière fois, qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter un peu les villes pour pouvoir avoir des prix plus attractifs, c'est vrai, mais aussi un petit jardin, un petit espace pour sortir, parce que beaucoup qui étaient en appartement ont beaucoup regretté d'être bloqués à l'intérieur.
Absolument, absolument. Bon, alors vous savez que le saint patron du village est Saint Fiacre, hein, c'est le patron des jardiniers, donc effectivement, il faut qu'on peut cultiver son jardin au sens propre, comme au sens figuré, à Gendin, parce qu'on a de la place. Hein, et puis, on a aussi beaucoup d'activités associatives. On fait dans le théâtre. On a d'ailleurs une pièce de théâtre qui se joue tous les ans à l'église, qui raconte l'histoire, notamment religieuse, du village, et qui est jouée par le conseil municipal et moi-même, et les gens qui mettent des voltes de Gendin. On rigole beaucoup à Gendin.
Alors justement, François Garcia, elle va être proposée cette année, cette pièce, peut-être pas tous les ans, mais vous allez rejouer cette année?
Alors, la première pièce qu'on a jouée était liée à Jean de Gendin, qui était en fait un personnage d'histoire qui a vécu sous Philippe le Bel, qui a créé l'université, alors c'est pas la Sorbonne, mais c'est l'autre université à Paris à l'époque. Donc là, on était sur la philosophie d'Arveroès, hein, bon, c'était... Mais Ce qui était quand même assez original, c'est qu'elle se jouait dans l'église en costume d'époque avec notre ami l'abbé Toury qui jouait le rôle de Saint Fiacre.
Ah oui, Arnaud Toury, oui.
Oui.
Et vous-même, alors, justement, on veut en savoir plus. Vous jouiez un personnage, vous aussi, François Garcia.
Moi, si vous voulez, j'étais modestement le bourgmestre de l'époque, qui était là à une messe, qui se retrouvait face à une confrontation entre les différentes, entre Hervé Roès, la philosophie d'Aristote, et puis l'Église. Mais c'était très intéressant.
Alors cette année, vous êtes en stand-by, peut-être, cette année, vous
bah,
allez...
Oui, j'étais plutôt en stand-by, vous savez, bon... Le bourgmestre, même à l'époque, je ne sais pas s'il parlait beaucoup.
Mais cette année, je veux dire, vous n'avez pas remettre tous les ans quand même c'est une pièce. C'était quand même il y a quelques années.
Oui, absolument. Et puis nous avons fait une deuxième pièce de théâtre où là, on était à la période de la réforme, puisqu'en fait, à Jandun, les plus grands étaient des protestants. Ils se sont retrouvés embastillés à la révocation de l'édit de Nantes. Donc il y avait quelque chose aussi à l'art à raconter. Toutes ces pièces sont jouées une fois l'an à la fête patronale. Et donne mieux naturellement à la découverte, parce qu'il faut donner un sens à tout ça. La fête patronale, ce n'est pas simplement les manèges, mais c'est d'abord aussi le retour aux traditions et à une part d'histoire qu'on essaye de faire découvrir.
Alors en cette période des températures, bon, ça va, ça vient, mais enfin, on a quand même des hivers beaucoup plus doux. On va arriver vers le printemps, on imagine que bon, ça va revenir, il va y avoir beaucoup d'intérêt pour des communes qui embellissent avec des fleurs, parce que ça compte beaucoup aujourd'hui, hein, l'environnement.
Oui, absolument. Mais les fleurs, en fait, le fleurissement des villages, en fait, c'est un support qui est utilisé aussi par nous pour rassembler les gens. Les gens se rassemblent autour de la nature. C'est un vecteur plutôt sympathique et ils se retrouvent et ils parlent. Donc, on partage aussi ce truc-là. On va prochainement, d'ailleurs, faire un troc de plantes. Donc, vous voyez, les gens sont invités à venir avec leurs semis et à s'échanger leur semis à la salle des fêtes. Ça va être un troc-plante, ça va être une originalité qui va se faire prochainement.
En tout cas, merci, le temps passe très vite avec vous. On aura l'occasion de vous retrouver peut-être au mois de mai, quand il va faire un peu meilleur, avril-mai. Et puis ce sera l'occasion d'évoquer bien sûr Jandun. On invite tous les habitants de Reims qui viennent à Charleville, qui viennent en Belgique, eh bien de quitter un peu la 34. Et puis à un moment donné, de prendre ces routes, ce qu'on appelait la vieille route de Paris, et au niveau de Poitéron, aller vers l'Aunois, puis remonter vers Jandun, et aller vers Charleville-Mézières. Ça, c'est la découverte des Ardennes. Il faut faire attention sur la route, hein, quand même, parce que ça monte et ça descend. Hein.
Absolument. Surtout en hiver, au mois de mai.
Ça va aller. En tout cas, merci beaucoup François Garcia, maire de Jandun, d'avoir été avec nous sur RCF. Et puis, à très bientôt. Au revoir.
Merci à vous.
Merci à tous les deux. Le tic-tac de l'horloge nous rapproche tout doucement de 18h30. C'est donc l'heure du journal régional sur RCF. Les titres de ce vendredi 23 février, le nombre de dossiers de surendettement dans le département des Ardennes a augmenté de plus de 17% en 2023, une tendance supérieure à ce que l'on observe au niveau régional et national. L'achèvement du contournement ouest de Châlons-en-Champagne est à l'arrêt complet. Ainsi, une association Finir le périphérique s'est créée en juin dernier, nous l'avons rencontrée.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Dans le cadre d'une tournée pour les élections européennes qui se tiendront en juin prochain, la représentation de la Commission européenne est actuellement en tournée dans le Grand Est. Elle fait étape à Reims aujourd'hui. Au programme, visite du CHU ce matin, visite de la chaufferie Boisbé et visite du parc Henri Paris cet après-midi. Actuellement est organisée une cérémonie de remise de diplômes citoyens à de jeunes Rémois et Européens engagés pour l'Europe, suivie d'un dialogue citoyen élection européenne 2024, contexte et défi. Cet événement a commencé à 18h. Il devrait se prolonger jusqu'à au moins 20h. En 2023, le nombre de dossiers déposés auprès des commissions de surendettement dans le département des Ardennes s'élève à 560 et concerne 702 personnes, soit une progression de 17,6% par rapport à 2022, une tendance supérieure à celle observée au niveau régional et national. plus 7,5%. Il faut dire que l'inflation est passée par là. Les précisions du directeur de la Banque de France dans les Ardennes, François Marbet, au micro de RCF France Ardennes.
Maintenant, il faut mettre les choses en perspective aussi. Hein. Si on reprend notre année de référence, c'est toujours l'année 2019 qui était avant la pandémie de Covid. Et sur cette année 2019, en fait, on a une chute du nombre de dossiers de surendettement qui est d'un peu plus de 11%. Donc c'est un effet, certes, de redémarrage, pas quand même à des volumes qu'on connaissait avant la pandémie et avant toutes ces mesures du quoi qu'il en coûte.
Dans notre département, le niveau des dépôts en 2023 reste néanmoins inférieur de 11,3% à celui de 2019, année de référence en période de pré-pandémie. Toujours en 2023, l'endettement contracté par l'ensemble des ménages surendettés dans les Ardennes s'établit à 22 millions d'euros. 36% sont des dettes à la consommation, 26% des dettes immobilières, 38% sont des dettes de charges courantes et autres dettes. Sur ces 22 millions, les instances de la Banque de France ont procédé à un effacement de 4 millions pour environ 120 dossiers ardennais. La typologie du surendetté dans le département est un couple sans enfants. François Marbet.
Contrairement à ce qu'on peut observer en France et même dans la région, on a chez nous plutôt des couples. À 60%, ce sont des couples déposants et pas des familles monoparentales. Et c'est des couples qui déposent généralement avec pas d'enfants à charge. On a eu à peu près 22 millions de dettes déclarées en 2023. Sur ces 22 millions de dettes, on en a effacé à peu près pour 4 millions. Puisque en fait, on va effacer des dettes dans deux situations. Première situation, la personne n'a pas de capacité de remboursement. Et ça, on le voit, et il n'y aura pas de rebond dans les deux ans qui arrivent. Soit la personne est incapable de rembourser, donc ça veut dire qu'au bout de 7 ans, ce qui reste d'endettement, on l'efface. Et donc ça veut dire que la personne est incapable de rembourser en 7 ans l'ensemble de ses dettes.
Le montant moyen effacé par dossier est de 16 517 euros dans les Ardennes. Et on reste dans les Ardennes justement où la tempête Louis a laissé des traces hier soir. Jusqu'à 5000 foyers ont été privés d'électricité. Pompiers et agents d'Enedis ont travaillé toute la nuit. Ce matin, ils étaient encore 700 à ne pas avoir retrouvé le courant. La situation est rentrée progressivement dans l'ordre au fil de la journée. Il est encore temps de s'y rendre ce soir à la maison de quartier Jean Jaurès de Reims. La compagnie Les Bulles en scène joue La Sœur du Grec. Le rendez-vous est fixé à 20h30, entrée 8 euros pour les non-adhérents, 6 euros pour les adhérents. Cela fait plusieurs années que le sujet est sur la table, sans parvenir à mener ce projet jusqu'au bout. L'achèvement du contournement ouest de Châlons-en-Champagne est à l'arrêt complet. Ainsi, une association Finir le périphérique s'est créée en juin dernier. Pour le président Patrice Thibert et les 120 adhérents qui l'entourent, les raisons de cette mobilisation sont nombreuses et essentielles.
Nous avons deux tronçons qui ont été réalisés et puis la particularité, c'est que malgré les 30 millions d'euros qui ont été dépensés, ça s'arrête dans les champs, dans la nature. Et la problématique est qu'aujourd'hui, vous avez 2500 à 3000 camions jour qui passent dans la ville de Châlons, mais également dans les communes aux alentours, périphériques. Et donc, de ce fait-là, ça entraîne beaucoup de nuisances sonores, de nuisances atmosphériques, des problématiques également au niveau de la pollution. Précisément, par rapport à tout cela, il était temps de pouvoir recréer une association de façon à pouvoir démontrer à nos élus, à nos décideurs, la nécessité de poursuivre ces travaux.
Objectif, fédérer un maximum de citoyens pour faire entendre leurs arguments et obtenir la reprise de ce chantier. À ce stade, le projet est toujours à l'arrêt, mais l'association est en ordre de marche.
Au niveau de notre intervention, nous avons déjà prioritairement adressé notre soumet de dossier à l'ensemble de la population, ce qui explique effectivement les adhésions, ce qui explique également les opérations que nous avons menées au niveau de pétitions lors de la foire de Châlons, mais également aux journées du patrimoine. Et aujourd'hui, on est à plus de 600 signataires de cette pétition. Au niveau des relations avec les conseils municipaux, nous envisageons très prochainement de demander audience à monsieur le préfet, au président de la CAC et également au maire de la ville de Châlons, étant entendu que les deux dernières personnes citées sont hostiles à la clôture de ce périph', prétextant l'investissement qui doit être engagé pour terminer ce périph'.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. La reprise de ce chantier est estimée à environ 100 millions d'euros, selon Patrice Thibert, le président du département de la Marne, Jean-Marc Rose, serait prêt à investir 15% sur ce projet. L'agenda des sports du week-end, c'est d'abord du volley avec ce soir à 20h la 22e journée de Ligue A. Chaumont se déplace à Tourcoing. En football, il y aura de la Ligue 2 samedi à 19h avec 3 Dunkerque à l'occasion de la 26e journée. En Ligue 1, dimanche à 15h, Reims se déplace au Havre pour la 23e journée. En basket, 17e journée de Ligue féminine samedi à 20h. Les Flammes Carolo reçoivent Villeneuve-d'Ascq. Avant de refermer ce journal, place à la météo. Cette fois, c'est la dernière, la dernière DDR, comme on dit, pour notre stagiaire Mélissa Tavares. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
Quel temps dans le ciel en Champagne-Ardenne pour ouvrir ses vacances scolaires demain ?
Ce week-end, tout comme cette semaine, pas de changement dans les départements de la Champagne-Ardenne. Samedi, dans tous les départements, le ciel sera d'une couleur très grisonnante. À Charleville-Mézières, dans les Ardennes, des précipitations seront attendues. Seulement en Haute-Marne, pour l'après-midi, le ciel sera un peu plus éclairci, contrairement aux autres départements qui, eux, ne changeront pas. Les thermomètres afficheront au minimum 2 degrés et au maximum 10 degrés. Dimanche, dans l'ensemble des départements, le ciel sera, comme samedi, couvert de nuages sombres qui laissera la place pour l'après-midi à la pluie. Le mercure grimpera au maximum jusqu'à 10 degrés durant la journée. Samedi, nous fêterons les Modestes et dimanche, les Roméo. Nous vous souhaitons une bonne fête à tous.
Merci Mélissa. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et on part faire des rencontres dans cette deuxième partie d'émission sur RCF. Tout au long de ce temps de carême, RCF vous propose des témoignages des fidèles de nos diocèses sur leur façon de vivre cette période de 40 jours qui nous mène jusqu'à la fête de Pâques. Témoignage ce soir de Bénédicte d'Artigalong de la paroisse Chalon-Centre avec Christopher.
Mon carême avec Bénédicte d'Artigalong en charge des servantes d'assemblée à la paroisse Chalon-Centre. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Christopher.
Bénédicte, qu'est-ce que le carême pour vous ?
Pour moi, c'est une période de préparation à Pâques. Et en fait, je pense que on peut le voir aussi comme un nettoyage de l'âme pour pouvoir accueillir la résurrection du Christ. Et puis se préparer, se calmer aussi de beaucoup de pratiques dans nos vies agitées.
Comment vivez-vous personnellement ce temps de carême ? Qu'est-ce que vous mettez en place pour vivre ces 40 jours avant Pâques ?
Alors il y a dans un premier temps les privations un peu d'ordre alimentaire. Alors pour moi, c'est pas forcément la pratique la plus adéquate parce que au quotidien, j'ai une alimentation qui est assez sobre. Donc ajouter de la sobriété sur quelque chose qui est déjà sobre, ça n'a pas tellement de sens. Par exemple, se priver juste de sucre pour des yaourts nature, c'est pas suffisant, j'estime. Donc c'est pas sur l'aspect alimentaire que je vais mettre le plus d'efforts, en fait. Et il y a quelques années, j'ai expérimenté une idée que j'avais entendue sur les réseaux sociaux, en fait, quand il y a des groupes avec des sœurs qui animent pour se préparer pendant le carême. Et donc elle parlait du carême de parole. Et moi, ça m'a beaucoup parlé, en fait, parce que je me suis rendu compte que dans la vie de famille, on parle beaucoup, on parle fort, on s'écoute pas forcément, on pose des questions et puis on n'écoute plus les réponses. J'ai découvert ça, en fait, le fait de parler moins, de se retenir et du coup d'être plus aussi dans l'écoute. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour moi ou pour les personnes qui parlent beaucoup professionnellement, ça peut être tout à fait adapté.
L'alimentation, l'écoute, est-ce qu'il y a autre chose que vous mettez en avant durant ce temps de carême ?
Oui, cette année, en fait, tout au début du carême, j'ai vécu, on pourrait dire, une contrariété, une frustration. Et du coup, au début, je me suis énervée. Enfin, j'ai réagi un peu comme d'habitude avec des émotions vives. Et puis après, je me suis dit que je pouvais mettre à profit cette contrariété pour en faire une sorte d'exercice de carême, en fait, parce que le carême, c'est aussi des exercices spirituels au quotidien. Et voilà, donc je me suis un peu forcée pour me mettre dans une posture d'acceptation. frustration de la contrariété comme une privation quoi, parce qu'une frustration c'est une privation. Donc voilà, je me suis un petit peu encouragée pour vivre ça ainsi, et du coup bah maintenant c'est un peu mon carême 2024, c'est un peu posé sur ça naturellement, c'est-à-dire que toutes les contrariétés, je les accueille avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de calme, et voilà, pour moi c'est un peu nouveau et je trouve que c'est intéressant.
Bénédicte, quel conseil donneriez-vous aux auditeurs pour vivre pleinement ce temps de carême ?
Ben, je pourrais peut-être conseiller aux adolescents et aux adolescentes de ne pas être trop exigeants en fait vis-à-vis de leurs attentes par rapport à eux-mêmes sur le carême. Parce que parfois j'en ai rencontré certains qui voulaient être dans une privation alimentaire peut-être excessive. Et du coup, voilà, moi je pourrais leur conseiller de ne pas se mettre des exigences trop grandes au début, de voir déjà comment quelques petites privations sont vécues, afin de ne pas être vraiment trop difficilement confronté à, par exemple, un affaiblissement, enfin l'hypoglycémie. C'est des choses qui peuvent les concerner quand ils ont un rythme scolaire très chargé. Et voilà, peut-être qu'on peut commencer doucement et puis peut-être quelques jours après, voilà, rajouter quelque chose pour que à la fin ça soit plus pleinement satisfaisant et pas vécu non plus comme une punition. Parce que c'est pas se punir, c'est se purifier, se préparer, et il faut que ça soit vécu, je pense, dans la joie et pas trop dans la contrainte.
Merci Bénédicte d'Artidalong d'avoir été avec nous. Très bon temps de carême à vous.
Merci beaucoup, vous aussi.
Merci Bénédicte et Christopher depuis les studios de RCF Cœur de Champagne. L'ensemble des chroniques sont à retrouver sur le site RCF.
Le 18-19 sur RCF.
Et nous, on continue de vous donner des nouvelles de notre diocèse avec Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, qui pose son regard sur l'actualité avec Jean-Pierre.
Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Alors Monseigneur, on est en plein carême, on va vous retrouver dans d'autres émissions comme 3 questions à tout prochainement. Mais justement, vous avez vécu il y a quelques jours ce qu'on appelle l'appel décisif des catéchumènes, c'était à Tinqueux. Ça a été Monseigneur un grand moment.
C'était vraiment une grande joie. L'appel décisif se fait toujours le premier dimanche de carême. Et il s'agit d'une étape importante dans le cheminement des catéchumènes. Ça fait un an et demi, 2 ans qu'ils se préparent. Et là, c'est le moment où à la fois eux-mêmes s'engagent et officiellement l'Église les appelle pour recevoir le baptême à Pâques. Donc ils auront 40 jours, à partir de ce moment-là, ils avaient 37 jours pour se préparer définitivement à Pâques. On dit appel décisif parce que pendant la célébration, on appelle leur nom, ils sont appelés par leur prénom. Et c'est l'image du fait que Dieu nous appelle chacun par notre prénom, nous appelle à lui appartenir.
Ils seront ces catéchumènes. Ils sont combien, Monseigneur Étienne Véteux, à peu près ?
C'est extraordinaire, c'est que ils sont 72. C'est vraiment une
progression quand même.
En progression nette. Ils étaient 40 l'année dernière. Ils étaient 35 en 2022. Ils étaient 23 en 2021. Donc on a triplé en 4 ans. Et c'est beau parce que à la fois c'est assez exigeant comme démarche puisque ils entrent dans la période de ce qu'on appelle les scrutins, c'est-à-dire que il y aura 3 étapes d'ici leur baptême à Pâques de célébrations qui sont des célébrations pénitentielles où ils demandent pardon et ils demandent des forces pour aller jusqu'à Pâques. Scrutin, ça vient de scrutari en latin qui veut dire discerner, séparer, regarder avec attention. Donc on regarde leur vie avec attention et eux-mêmes discernent ce qui est le bien et ce qui est le mal.
Et ils seront baptisés dans la nuit pascale, dans des lieux d'ailleurs différents, pas tous à la cathédrale, dans les espaces missionnaires.
Il y aura bien sûr des baptêmes à la cathédrale, mais ils seront baptisés dans leur espace missionnaire pour la plupart.
Alors Monseigneur, cette semaine vous étiez à Saint-Valfroy pour la retraite des laïcs en mission ecclésiale, qu'on appelle les LEM. Ce fut un rendez-vous important, mais alors justement, on ne sait pas trop, on utilise parfois l'acronyme LEM, laïcs en mission ecclésiale, mais c'est pas très clair toujours, on ne sait pas trop qui...
De fait, on utilise parfois trop d'acronymes, c'est vrai. Alors, LEM, c'est laïc en mission ecclésiale. Bien sûr, il y a beaucoup de laïcs qui donnent un coup de main, qui sont au service dans l'Église. Mais certains s'engagent de manière plus forte dans un service particulier, parfois à temps plein ou parfois pour un temps partiel, mais où on est clair qu'ils ont un service qui leur est confié. C'est pour ça que c'est une mission. Il y a beaucoup de services différents, grande diversité, ça peut être au service d'une paroisse, d'un espace missionnaire. Beaucoup sont dans des services plus transversaux, visite des malades, visite des hôpitaux, la formation aussi, la pastorale des jeunes. Il y a vraiment une grande, grande diversité de services qui correspond aussi aux dons et aux dons spirituels, aux charismes que chacun reçoit.
Retraite, donc des LEM, des laïcs en mission ecclésiale cette semaine. Il y a le mot retraite et ça convient bien à cette période du carême, Monseigneur.
Effectivement. Nous étions pendant 4 jours à Saint-Valfroid, 3 jours en fait, mais d'habitude 4 jours à Saint-Valfroid, pour un moment de retrait, comme le nom retraite l'indique, un moment où on essaye de quitter tous les bruits, les agitations du monde et se mettre à l'écoute à la fois de nous-mêmes, de ce que l'on porte profondément, et de Dieu. Et c'est un moment à la fois de repos pour beaucoup, et un moment pour retrouver des énergies, retrouver des forces dans le Seigneur.
Se retirer d'une certaine façon, mais en étant quand même branché et connecté sur le monde.
Disons, se retirer pour être mieux rebranché et connecté au service du monde et de l'Église au retour.
D'ailleurs, j'ai entendu dire, Monseigneur, que vous-même, vous allez peut-être faire une retraite au cours de ce carême.
Tout à fait, j'aime bien pendant le carême faire quelques jours de retraite. Alors rien de très long, mais effectivement, je partirai dimanche pour 3 jours à l'abbaye d'Igny, où je compte bien refaire des forces spirituelles.
Alors, il est vrai aussi que vous suivez dans votre mission, dans votre ministère d'évêque ici, dans le diocèse de Reims-Ardennes, en particulier les services et les mouvements liés aux jeunes. Alors, quand on regarde l'agenda et le calendrier, on s'aperçoit que les 15 et 17 mars vont avoir lieu un temps pour les lycéens qu'on appelle le jubilaté. Vous le préparez, vous allez y participer ?
Bien sûr, c'est un temps très important, c'est peut-être le temps fort du diocèse, organisé par le diocèse pour les jeunes de cet âge-là, 14 à 18 ans, disons, de la troisième jusqu'à la première, jusqu'à la terminale. Jubilaté existe depuis 2018 et c'est un week-end avec des temps forts spirituels, avec des moments festifs, des moments ludiques aussi, beaucoup de rencontres entre eux. Les jeunes se retrouvent à plusieurs centaines dans des contextes qui sont pas le contexte de l'école, donc ça permet des relations assez différentes. Et puis il y aura quelques surprises pour cette édition Jubilaté, mais je peux pas vous dire
de quoi il s'agit. C'est la définition même d'une surprise, mais... C'est vrai que, et d'ailleurs on le voit sur RCF toute cette période de carême, il y a un tas de manifestations, de rencontres, de moments privilégiés et particuliers où à la fois on réfléchit, on essaye de vivre ce moment intense pour préparer à Pâques. C'est un moment important.
Le carême, c'est comme vous le dites, la préparation à Pâques, et c'est bon que chacun puisse s'engager un petit peu plus pour s'orienter vers la fête de la Passion et la Résurrection qu'est Pâques. Jubilaté, comme vous l'avez dit, c'est du 15 au 17 mars. Et en fait, je voudrais vraiment prendre cette occasion, puisque c'est dans 3 semaines à peu près, d'inviter tous ceux qui connaissent des jeunes de cet âge, 14 à 18 ans, à leur en parler, les aider à s'inscrire. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du diocèse et c'est le bon moment.
Inscrivez-vous, même si vous êtes parents, même grands-parents, signalez à vos enfants, vos petits-enfants, allez à Jubilaté, c'est un rendez-vous exceptionnel, les jeunes se retrouvent, ils se trouvent ensemble. Et c'est vrai d'ailleurs, les jeunes parfois sont dans des services, ils s'impliquent, c'est le cas des scouts, et je crois qu'hier à la cathédrale, il y avait l'anniversaire de Baden-Powell, il y avait toute une manifestation, vous y étiez, Monseigneur ?
Oui, le 22 février, c'est l'anniversaire de naissance de Sir Baden-Powell, Sir en anglais,
oui.
Baden-Powell, qui est le fondateur du scoutisme. À l'époque, il n'avait pas forcément l'intention de fonder un mouvement nouveau, plutôt d'insuffler dans les mouvements de jeunesse de l'époque quelques valeurs pédagogiques, le rapport à la nature, et l'esprit de service, la promesse. Mais en fait, c'est devenu très très rapidement un immense mouvement, un des plus grands grand mouvement pour jeunes. Et les scouts fêtent cet anniversaire. Et ce qui est marquant à la cathédrale hier, ce qui était marquant, c'était que se sont retrouvés les trois mouvements scouts. Donc Scouts Guide de France, SUF, Scouts Unitaires de France, et puis les Scouts d'Europe. Un beau témoignage d'unité.
On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver dans des émissions un peu spéciales. On vous retrouvera dans trois questions prochainement sur l'antenne de RCF. Et puis bon, on aime bien savoir, mais si ce n'est qu'à Pâques, vous allez vous rendre vous-même pour la nuit pascale. Vous avez déjà un agenda. Vous allez à la cathédrale, à Saint-Remy, dans d'autres endroits, Monseigneur.
Alors, la cathédrale, c'est le lieu où l'archevêque célèbre. Moi, j'aurai le privilège de pouvoir aller dans d'autres lieux qui n'ont pas toujours la visite de l'évêque. Et je serai... Pour la vigile de Pâques, je serai et à Nicolas Roland, l'EHPAD, Nicolas Roland auprès des vieux prêtres, et à Saint-Remy.
Merci Monseigneur Étienne Véteux d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. On aura l'occasion de vous retrouver pour ce carême. Merci d'avoir été en direct avec nous.
Merci.
Au revoir.
Merci à tous les deux. Au plaisir de vous retrouver prochainement.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine régional en partant du côté de Brienne-le-Château, commune auboise située entre Troyes et Saint-Dizier. Elle a vu grandir celui qui deviendra l'empereur Napoléon Ier. Il étudiera à l'école royale militaire de la ville et c'est dans cet endroit qu'est installé depuis 1969 le musée Napoléon, découverte avec Mathieu Bernard, adjoint au maire de Brienne-le-Château, en charge de la culture, du sport et du tourisme. Il est au téléphone avec Christopher Fausten.
Mathieu Bernard, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF. Présentez-nous ce lieu, ce bâtiment riche d'histoire.
Écoutez, il faut savoir que c'est une déclaration du 1er février 1776 du roi Louis XVI qui a fait donc de Brienne une des succursales de l'école militaire de Paris. Et Brienne est donc devenue un des 12 collèges royaux militaires. Donc en 1776. Et c'est en 1779... qu'un jeune Corse du nom de Napoléon Bonaparte est entré. Les dates, on dit 25 avril, mais oui. C'est plus certainement le 15 mai 1779 où il est entré donc à l'école royale militaire de Brienne-le-Château. Il y est resté jusqu'en 1784, date à laquelle il est reparti sur Paris pour l'école militaire de Paris, pour notamment ses études d'artilleur.
Mathieu Bernard, que retrouve-t-on dans ce musée Napoléon à Brienne-le-Château ?
Alors, le musée Napoléon à Brienne-le-Château existe depuis un certain temps, puisque c'est en 1937 que le maire de l'époque, qui s'appelait Julien Régnier, avait décidé de faire de cette ancienne école royale militaire, qui était en désuétude, voire en partie détruite, donc d'en faire un musée Napoléon. Mais c'est effectivement en réalité en 1769, à l'initiative de M. Lucien Moisson, qui était maire de Brienne-la-Vieille, et qui était un fanatique de Napoléon, que le musée a pu ouvrir. Donc, dans les Napoléons, on y trouve, si vous voulez, quatre salles spécifiques.
D'accord.
Une première présentation est faite par visio pour dire aux personnes qui viennent visiter ce qu'était effectivement le musée, enfin du moins l'école militaire tout au départ, et ce qu'elle est devenue au fur et à mesure. On a une première salle, le musée est situé à l'étage, on a une première salle que l'on appelle un petit peu la silhouette. C'est un peu, si vous voulez, la représentation de ce qu'était Napoléon.
Oui.
Pourquoi il mettait son bicorne de telle façon? Pourquoi il mettait sa main dans le gilet? On y retrouve aussi un certain nombre de bustes de Napoléon, notamment Napoléon Imperator. Il se prenait quand même un petit peu pour César. Hein. Il était très, très, très imbu de sa personne, il faut le reconnaître. On retrouve aussi un magnifique bicorne de Napoléon, un bicorne de la maison Poupart, qui était la maison officielle donc de Napoléon Ier pour la fabrique de ces bicornes. L'a-t-il porté ? L'histoire ne le dit pas. On retrouve dans cette première salle également tout un tas d'affiches sur le cinéma, et notre Napoléon et le cinéma. Il faut savoir que plus de 1000 films ont été tournés sur Napoléon Ier.
Ah oui.
Je dirais à titre personnel que le dernier de Ridley Scott est loin d'être le meilleur, mais il y a eu quand même plus de 1000 films. C'est-à-dire que c'est autant, voire plus, que de films tournés sur le Christ. Voilà un petit peu, si vous voulez, pour la présentation de la première salle. La deuxième salle, c'est un peu le Napoléon stratège.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que vous avez toutes les batailles qui sont représentées. Vous avez la campagne de France, bien évidemment. Alors vous pouvez, avec des QR codes, vous pouvez écouter les différentes batailles. Vous pouvez participer comme si vous y étiez à la bataille, à la campagne de France de 1814, où Brienne a été largement impliquée, puisque Napoléon était à Brienne-le-Château en 1814, notamment le 29 janvier, où ils ont failli faire prisonnier le patron des coalisés qui s'appelait Blücher au château de Brienne. Il s'est sauvé malheureusement et c'était aussi là le début du déclin de l'empereur.
D'accord.
Donc la bataille de Wagram, la bataille de Waterloo, tout ça vous est relaté dans différents panoramas. Au pied, c'est-à-dire au sol, vous avez la carte de l'Europe avec l'ensemble des batailles que Napoléon a pu conduire. Voilà pour la deuxième salle, vous y trouvez aussi des armes, des tableaux, voilà. La troisième salle, c'est ce qu'on appelle Napoléon le réformateur. Parce que ce que l'on n'en sait pas vraiment, c'est que Napoléon fut avant tout un grand réformateur.
C'est-à-dire ?
On connaît le Code civil. Napoléon, en 1800, a créé la Légion d'honneur. C'est aussi grâce à lui qu'a été créé le baccalauréat. Bon, on va mettre un petit peu des points un peu de suspension en disant que le baccalauréat n'était réservé qu'à des hommes. Les femmes n'avaient pas le droit de passer le baccalauréat. Ce n'est qu'après, une fois avec Eugénie, la femme de Napoléon III, que les filles ont pu passer leur baccalauréat. Mais aussi le cadastre, c'est Napoléon. Bon, le code civil et le code pénal aussi un petit peu plus tard. Les numérotations des rues, donc tout ça, c'est Napoléon le réformateur. Et dans cette salle, vous avez, bien sûr, vous pouvez tous savoir sur ce qui s'est passé par rapport à comment le baccalauréat s'est mis en place, avec des interviews de grands auditeurs, de grands historiens d'aujourd'hui, tels Jean Tullard ou M. Lenz.
Et la dernière salle ?
Et dans la dernière salle, alors c'est la salle qu'on appelle un petit peu Napoléon intime. C'est Napoléon intime, c'est Napoléon un peu à Brienne, puisqu'on retrouve un fleuret, puisque Napoléon pratiquait l'escrime, hein, entre autres disciplines. Hein. Bon, il y avait du français, bien sûr, il y avait de la géographie, il y avait de l'histoire, il y avait de l'artillerie, et il y avait aussi de l'escrime, du sport, donc voilà. Donc Napoléon était, paraît-il, un excellent fleurettiste. Dans cette salle, on trouve également une photo des quatre potentiels empereurs, puisque effectivement, Napoléon Ier a eu un fils, l'Aiglon, roi de Rome, qui malheureusement est mort à Schönbrunn en mine très très jeune, à 24 ans. Mais Napoléon était déjà, lui, décédé puisqu'il avait été exilé à Sainte-Hélène. Donc, il se serait appelé Napoléon II. Ensuite, on a eu Louis-Napoléon, qui est devenu Napoléon III. Après, maintes façons, il était prisonnier et il a réussi maintes fois à se sauver. Puis finalement, la dernière fois, il a réussi et il est devenu ainsi président de la République et tout de suite empereur des Français, puisqu'il a fait en sorte qu'il puisse être nommé empereur. Sinon, il n'aurait pas pu refaire un deuxième mandat de président de la République. Et on parle de Napoléon IV. Alors Napoléon IV, c'était le fils de Napoléon III, qui, lui, était né en Suisse. Et malheureusement, il est parti ensuite se battre avec l'Angleterre, puisque Napoléon avait été donc banni, et il était donc exilé en Angleterre avec sa femme Eugénie de Montillo et son fils Louis-Napoléon, dit Napoléon IV. Il s'est engagé dans l'armée anglaise. Il est parti au Zoulouland faire la guerre avec les Anglais et il a été tué, il a été criblé de flèches par les Zoulous lors d'une sortie, d'une expédition là-bas.
Mathieu Bernard, intéressons-nous désormais à la programmation de ce musée pour l'année 2024, au programme exposition, conférence, mais aussi bourse multicollection le 3 mars prochain.
Effectivement, c'est le 3 mars prochain qu'il y aura la bourse multicollection qui est organisée par les amis du musée Napoléon et qui est une bourse qui existe depuis de nombreuses années. Et il y aura à cette occasion une exposition par les Vosges napoléoniennes. Alors les Vosges napoléoniennes, ce sont des reconstitueurs. Donc, et ça se passera à la salle polyvalente du foyer rural de Brienne-le-Château où tout un tas de personnes, je crois qu'il y a 42 inscrits, donc 42 collectionneurs, 42 personnes très intéressées par le premier empire et puis pas seulement.
Est-ce que avant de nous quitter, parce que le temps passe très vite, Mathieu Bernard, de nous présenter un ou deux dates à venir après cette bourse multicollection ?
Alors j'ai deux dates si vous voulez, je vais vous prendre les deux qui viennent. 27 mars, les Nocturnes de l'Histoire, visite insolite, nous avons deux masques mortuaires de Napoléon.
Oui.
Donc autour de cela, nous allons travailler en soirée, tout n'est pas encore calé, mais des Nocturnes de l'Histoire le 27 mars. Et le vendredi 5 avril, nous aurons une conférence, puisque c'est le 210e anniversaire de la campagne de France, la conférence 1814, une campagne par l'image, et c'est David Chantran, historien, et qui est directeur du souvenir napoléonien, la revue du souvenir napoléonien, et qui est l'ancien conservateur du musée de Brienne-le-Château.
Le musée Napoléon, situé au 34 rue de l'école militaire à Brienne-le-Château dans l'Aube. Plus d'informations sur le site musée-napoléon-brienne.fr. Merci beaucoup Mathieu Bernard d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Je rappelle, adjoint au maire de Brienne-le-Château, en charge de la culture, du sport et du tourisme, de nous avoir présenté ce musée Napoléon du côté de Brienne-le-Château, en espérant bien sûr encore une meilleure affluence pour cette année 2024. À très bientôt.
Merci à vous.
Plus d'infos sur le site musée-napoléon-brienne.fr. Ainsi se referme le magazine régional ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, même si c'est les vacances scolaires et que certains peuvent en profiter. Eh bien, on vous souhaite de très bonnes vacances. Pour les autres, nous, on sera là, fidèle au poste, lundi 18h10 pour le magazine régional et dès 7h du matin pour l'actualité rédactionnelle avec les rédactions de RCF Cœur de Champagne, de RCF Reims-Ardenne et également aussi en DAB+, sur RCF Champagne-Ardenne. Mélissa, c'était votre dernière en stage aujourd'hui. Un grand merci, à très bientôt, bonne continuation.
À bientôt et merci beaucoup.
Et on a également une pensée pour Thomas qui était en stage à la technique avec Fabrice et Thierry. Les trois questions du matin que vous entendez du lundi au vendredi, c'est lui qui les a enregistrées non sans peine parmi d'autres missions qu'il a eues avec ses tuteurs. Et on le remercie également pour son investissement. Quant à nous, on vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve lundi 18h10. Tout de suite, l'information nationale sur RCF.